Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado et notamment sur les plateformes numériques de Cogeco. Nicolas Richard, ce sera que toi et moi aujourd'hui. Hugues Léger prend des petites vacances dans le Vermont. Charlotte n'est pas disponible. Comment vas-tu? Comment te portes-tu, mon cher ami?
Ça va très bien. On revient dans le temps, Alex, comme à nos tout débuts.
Ben, c'est le Original 2
voilà.
Ben voilà. Ben écoute, ça a bien parti ensemble, puis ben on sait à quel point c'est pas trop compliqué faire de la radio ensemble. On sait depuis bien avant, même avant le podcast, honnêtement, puis les gens ne le savent peut-être pas, mais la raison pour laquelle on a commencé ensemble, c'est parce que tu m'avais invité il y a déjà un bon petit bout à la radio de l'Université de Montréal.
Ouais, c'était en 2018, je pense. Où je t'avais invité, c'était, je pense, de mémoire, notre deuxième ou troisième émission du début. Là. C'était dans les premiers.
OK, c'était dans vos premiers shows.
Oui, je pense que c'était le deuxième. Rappelle-toi, on n'était pas trop sûr de la console, comment ça fonctionnait. On ne savait pas le café était situé où dans la station. C'était vraiment, c'était très, 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 très au début de notre aventure.
Mais je me souviens, tu m'avais approché parce que ça, tu voulais jaser de tennis un peu. Exact. Puis tu avais vu un peu qu'est-ce que je faisais à TVA Sport. Puis je me souviens d'avoir sorti de cette émission-là en disant « Colin, il me semble que la chimie était bonne, tu sais, ouais, entre nous deux, même si c'était la première fois vraiment qu'on se parlait, on ne se connaissait pas. » Fait que après ça, ben, « The rest is history », comme
voilà,
on dit.
Le reste fait partie de l'histoire, comme un certain Yannick Sinner, qui je pense, lui aussi, connaîtra une partie de succès au cours de l'histoire récente.
Ben, si on peut avoir un succès qui va être similaire à celui d'Yannick Sinner cette saison, je peux te dire, en affaire, ce ne sera pas gênant.
Le jour où tu deviendras champion Grand Chelem, j'espère que tu sauras me remercier sur le podium au centre du terrain.
C'est sûr que je te remercie au centre du terrain. Mais je vais le saluer, comme dit mon ami Guillaume Rivet, lève pas trop tes attentes, tu ne seras pas trop déçu.
Oui, exactement. C'est mon mantra, là, je dirais, de manière quotidienne dans tout ce que je fais, Alex.
Parlons de tennis, puisque c'est notre mandat. Et puis, on va commencer avec le joueur de l'année sur le circuit de l'ATP. Ça, c'est incontestable depuis le début de la saison. C'est un troisième titre pour lui, incluant un titre en Australie. Son premier majeur en carrière est Rotterdam. Il met la main sur le titre à Miami. Que dire de plus que Sinner est en ce moment presque invincible?
Ben, écoute, c'est, tu l'as dit, c'est presque littéral. Il a seulement une seule défaite depuis le début de la saison. Trois mois, Alex, que la saison est commencée et Sinner a perdu une seule fois. C'était il y a deux semaines à Indian Wells contre un certain Carlos Alcaraz. Donc, une défaite qui est loin d'être gênante. Mais tu l'as dit, triomphe à Miami contre Grigor Dimitrov en finale. On reviendra, je pense, sur le cas de Dimitrov parce qu'il est vraiment intéressant et franchement fascinant. Mais pour ce qui est de Sinner, tu sais, il y a trois choses moi, qui m'ont marqué au cours de cette finale-là. Puis je vais exclure ses premiers matchs du tournoi parce que je pense que ce qui nous intéresse, c'est surtout la finale. D'une part, à quel point il est arrivé un peu sur les talons dans cette finale-là. Je m'explique. Il est reconnu comme étant possiblement le meilleur retourneur de service avec Alcaraz. Là, je pense que les deux débats se valent. N'en demeure pas moins que Dimitrov a blanchi Sinner lors de ses deux premiers jeux au service. Et là, je me dis, OK, est-ce que c'est l'expérience d'un vétéran qui n'a plus rien à perdre, qui va ouvrir la machine et Sinner va être un peu pris au dépourvu? Finalement, puis c'est là mon deuxième point, comme les grands champions, il a été capable de s'adapter à l'expulsé. Pourquoi Djokovic, Federer, Nadal sont capables de gagner les gros tournois? C'est parce que peu importe ce qui arrive, peu importe comment le vent tourne, ils vont être capables de s'adapter, de revenir plus fort. Puis ultimement, le troisième point, Sinner, Alex, tu l'as vu, puis c'est comme ça depuis le début de la saison, puis même depuis la fin de la saison dernière, lorsqu'il ouvre la machine, lorsqu'il est dans sa zone, tu l'as dit, il est inarrêtable.
Écoute, moi j'avais, si je me souviens bien, Medvedev comme champion de...
On l'avait tous, ouais.
De ce tournoi-là, où j'avais, non, c'est pas vrai, j'avais Carlos Alcaraz.
Et nous, Hugues et moi, on avait Medvedev.
Et tu as vu à quel point Sinner a détruit Medvedev 6-1, 6-2 en demi-finale. Un gars qui est champion de Grand Chelem, un gars qui est un des meilleurs sur terre battue, peut-être un des top 4 sur terre battue, surface dure, comprenez-moi bien. C'est pas sa surface préférée, Medvedev, la terre battue, mais sur surface dure. Et puis, il le détruit comme si c'était un enfant d'école. Je veux dire, c'est dire à quel point présentement Sinner est sur une autre planète.
Et je te dirais même, Alex, puis tu sauras me contredire, mais dans cette victoire-là contre Medvedev, Sinner était loin d'être à son meilleur. Je pense qu'on a eu un Sinner bon, mais sans plus. Regarde les statistiques, puis pour les gens qui ont regardé le match, on a vu que oui, il avait Medvedev dans les câbles, mais je pense que c'était également une très, très, très mauvaise journée pour le Russe, là. Sinner, bon, finalement, il a rebondi, il a gagné ce match-là assez aisément, puis ultimement la finale. Mais dans ce match-là contre Medvedev, j'aurais été curieux de voir ce que ça aurait donné, un, contre Medvedev à 100%, et peut-être contre un autre joueur qui aurait pu prendre la place de Medvedev. Mais Sinner, puis je me répète, il s'est adapté, il s'en est bien tiré, mais tu l'as dit, de battre Medvedev comme ça, c'est assez impressionnant.
Je ne sais pas s'il est en train de se placer comme un des meilleurs Italiens de l'histoire déjà, là, Yannick Sinner. Bon, on sait que dans les dernières années, et c'est le cas présentement, le tennis italien a énormément de profondeur. Honnêtement, c'est une équipe qui est particulièrement dangereuse à la Coupe Davis. Ben, on l'a vu là, l'année passée. Écoute, je voyais ça. Il était déjà dans le top 3 et c'était un premier Italien depuis les années 70 là, qu'on avait dans le top 3. Alors, c'est quand même assez phénoménal ce que Yannick Sinner est en train de réaliser pour lui et pour son pays.
Et là, il est deuxième. Alors, j'imagine à peine la suite, là, parce que, tu sais, il a 22 ans. Il est en pleine possession de ses moyens. Voyons voir là, ce qui va arriver à Roland-Garros, à Wimbledon et au US Open, simplement pour parler des... et des Olympiques aussi, là, simplement pour parler des tournois, disons, d'importance. Mais c'est un début de saison extrêmement prometteur pour Sinner.
On lui a fait des espèces de faux espoirs en conférence de presse. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais le journaliste a posé une question puis s'est trompé en posant la question en disant « Bon, qu'est-ce qui est plus important pour toi, le fait d'avoir remporté le titre ou d'être numéro un mondial? »
Ah oui, hein?
Et là, Yannick Sinner se lève les yeux, dit « Numéro un! » Et là, le reporter a dit « Non, 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 numéro deux!
» ça ne sera pas tardé, Alex, là, avant. Je pense qu'il est à 1000 points de Djokovic. Puis, tu sais, Djoko, on ne sait pas, son horaire est un peu fin, on dirait, au jour le jour. Va-t-il se blesser? Va-t-il être en deçà des attentes? Et, tu sais, Sinner a plein de points à défendre. Je suis impatient de voir comment ça va se concrétiser, tout ça, mais c'est extrêmement encourageant là, pour le clan de Sinner.
Il est effectivement à 1000 points là, de Novak Djokovic. Et comme tu dis, en effet, Novak aura quand même pas mal de points à défendre dans les prochains mois. Mm-hmm. Bon, j'ai hâte de voir de ce côté-là qu'est-ce que ça va donner, mais il a quand même un titre à Grand Chelem, une finale à Wimbledon aussi à défendre. Alors non, Yannick Sinner est quand même dans une bonne position s'il veut atteindre la place de numéro un mondial. Pas non plus trop sortir rapidement. Carlos Alcaraz, du parquet, là, il est tout juste derrière
Yannick Sinner. Et Medvedev et Djokovic, ça reste que présentement, on est dans la bulle Sinner et on est un peu biaisé par rapport à ce qu'on voit. Mais c'est sûr là, qu'il n'est pas, non plus seul au sommet. Là.
Ben, biaisé en même temps, je veux dire, les résultats parlent par eux-mêmes au sens où, je veux dire, tu l'as dit toi-même, il n'a qu'une seule défaite, c'est contre Carlos Alcaraz. Le reste, il a tout raflé, incluant les internationaux d'Australie. Alors, honnêtement, Yannick Sinner, en ce moment, je pense qu'il n'y a personne qui va dire le contraire. Il est, à moins que tu me dises le contraire, là, mais il est le meilleur joueur au monde présentement.
Tout à fait.
Puis, je vais même aller plus loin que ça. Et non seulement présentement, mais je pense qu'il est le meilleur joueur au monde depuis... Est-ce que je peux aller dire jusqu'à la fin du US Open l'année passée? Depuis septembre-octobre, ben oui. Il est le meilleur joueur au monde.
Ça. Ben écoute, en tout cas, je ne veux pas non plus exagérer, là, mais tu sais, on a vraiment senti que le titre à Toronto, son premier Masters 1000 au mois d'août, a vraiment ouvert les valves. Donc, tu parles du US Open, j'ai presque envie de te dire, moi, depuis Toronto à la mi-août, parce qu'on a vraiment senti, là, juste pendant cette semaine-là, une éclosion, mais surtout une progression extraordinaire sur un court laps de temps pendant ce tournoi-là. Puis j'ai vraiment l'impression que ça a été, toute proportion gardée, là, je serais curieux d'entendre Sinner sur ce que ça a changé de gagner à Toronto puis au Canada à la Meilleure Banque nationale l'année passée.
Ben, on va avoir l'occasion de lui demander dès cette année,
parce que ce sera
les hommes à Montréal. Et ben franchement, je pense que la question se pose, est-ce que ça a été déterminant pour toi? Quand on regarde bon, ce qu'il a fait depuis l'année passée, ton analyse, elle n'est pas complètement folle, Nico, de dire que ben, depuis Montréal, il est peut-être un des meilleurs joueurs au monde. Bon, évidemment, il avait fait une ronde des 16 là, avant de perdre contre Zverev en 5-7 à New York. Mais par après, victoire à Beijing, victoire à Vienne, Victoire à Turin, puis bon, en Coupe Davis, on sait ce qu'il a fait. Non, j'ai dit victoire à Turin, c'est pas vrai. Il avait battu Novak Djokovic, mais perdu en finale à Turin, au final de l'ATP. Alors, honnêtement, là, ton point dans le temps est quand même pas complètement fou. Je le mettrais peut-être perso un peu plus tard, mais ça se défend très bien de dire depuis Montréal, depuis Toronto l'année passée, il est peut-être le meilleur joueur au monde et ça se défend. Et honnêtement, toi, c'était la première fois que tu le couvrais. C'est peut-être grâce à toi qu'il est.
Je voulais pas le dire, mais là que tu en parles, je pense que c'est vraiment moi qui ai été son élément déclencheur. Mais tu sais, pas de farce, Alex, je regarde son tableau de chasse à Toronto l'année dernière.
Ah ouais, ça n'a pas de sens.
Berrettini, Andy Murray par forfait n'a pas joué, évidemment. Ensuite, mon fils, Tommy Paul et Demi-Nord en finale. Fait que non seulement il a gagné le tournoi, mais il a mérité chacune de ses victoires, puis il a mérité entièrement ce titre-là parce que le parcours était loin d'être simple. Puis tu sais, à cette époque-là, entre guillemets, il était 7e tête de série, là, donc pas une, deux ou trois qui profitent d'un tableau extrêmement favorable. Il a dû gagner chacun de ses matchs de manière assez convaincante là, pour ultimement gagner le trophée.
Non, et quand tu regardes ce qu'il a fait également à Melbourne au début de la saison, je veux dire, c'est complètement fou. Même au premier tour, Botic van de Zandschulp, c'était pas si simple que ça. Puis après ça, tu as Achanov, Rublev, Djokovic, Medvedev en 5-7. Je veux dire, il n'a pas eu beaucoup de parcours faciles. Ironiquement, à Miami, il aura profité de certaines surprises dans son tableau. Là, on dit ça, puis à Miami, c'est peut-être pas le cas, mais il a quand même dû battre, et je le répète, détruire Daniil Medvedev.
Et un Dimitrov en pleine possession de ses moyens aussi. Je ne sais pas si tu veux y aller tout de suite, Alex. Mais
allons-y sur Dimitrov.
Il a battu Urkac, Alcaraz et Zverev. Personnellement, je n'avais pas ça sur ma carte de bingo en 2024. Là, un retour de Dimitrov dans le top 10 et de le faire comme ça. Puis en début de match, là, il a été excellent contre Sinner. C'est simplement que Sinner, qui est dans une classe à part, a offert une classe de maître. Mais outre ça, Dimitrov, il n'a rien à se reprocher. Il le dit en conférence de presse. Pour moi, là, je suis gagnant. Évidemment que je n'ai pas le trophée que je voulais entre les mains, mais le parcours puis la semaine que je viens de connaître, pour moi, c'est une semaine gagnante. Il a 32 ans. Puis Alex, tu as sûrement regardé quelques matchs à Miami. Il n'a pas ralenti énormément, là, le bon Grégoire. Là.
Ben, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il est en santé parce que je me souviens au même moment l'année passée, moi j'étais à Indian Wells, au même moment, ou à peu près, là. Puis je me souviens d'être allé dans les gradins pour regarder un match de Dimitrov. Ça plaignait de douleur au genou.
C'est moins ça, là.
Ben, il était peut-être pas à 100%. Et peut-être que, là, ce qui est intéressant de Dimitrov, honnêtement, l'année passée, il a fait la finale à Paris en fin de saison. Alors, depuis la fin de saison passée, il va très bien. Il a remporté, on l'a déjà dit, un titre au début de la saison cette année. Écoute, il va vraiment bien, le Grigor Dimitrov. Et puis, j'ai l'impression qu'il est en santé. Mais ce que je trouve intéressant de Dimitrov, c'est qu'il fait un peu partie de cette génération perdue-là, c'est-à-dire entre la génération du Big Three puis la génération qui explose présentement avec les Zverev, les Medvedev, etc. Mais il y a beaucoup de monde qui aurait vu Grigor Dimitrov comme un potentiel numéro un. Je veux dire, à un moment donné, on l'appelait le Baby Federer. Et là, dans la trentaine avancée, enchaîne les résultats incroyables. Je pense que c'est quand même, faut reconnaître que c'est quand même phénoménal ce que Grigor Dimitrov est en train de faire. Et aussi, c'est un, entre guillemets, fan favorite. C'est un gars que tout le monde aime sur le parcours, sur le circuit. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, Serena Williams est allée le voir durant un de ses matchs, a pris dans ses bras. Mais quel parcours il aura connu, Grigor Dimitrov. Maintenant, il est dans le top 10. Il a déjà été, c'est un ancien top 3 là, autour de 2017. Ouais. Mais là, il est dans le top 10. Le vois-tu réavancer près du top 5 ou présentement, la marge, elle est trop grande selon toi?
Ben, tu sais, Je fais une parenthèse avant de répondre à ta question sur le fait que oui, il est un peu tombé entre deux chaises, là, c'est-à-dire entre la génération du Big Three et la génération de jeunes actuels qui poussent sur le circuit. Mais c'est vrai que lorsque tu regardes son jeu, il a très peu de failles. Tu sais, oui, tu le comparais à Federer, puis c'est facile de le comparer parce que les deux se ressemblent énormément. Mais Dimitrov, excellent service, il est agile, il est explosif, un bon coup droit, il a effectivement un très, très bon revers aussi qui parfois fait défaut hier, mais il n'en demeure pas moins que c'est tout un joueur de tennis qui est tombé malheureusement entre deux chaises. Puis pour répondre à ta question, tu le sais Alex, au tennis, j'arrête pas de me répéter, il n'y a rien de plus dangereux qu'un joueur qui a du momentum. Et présentement, Dimitrov, après Sinner, sur le circuit, c'est probablement lui qui a le plus de rythme présentement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le plan du calendrier parce qu'il a 32 ans, tu l'as dit, il a été blessé énormément par le passé. Puis on sait également que la terre battue, c'est probablement la pire surface pour les records fragiles. Alors j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Je suis convaincu que là, il va se donner une courte période de repos pour assimiler tout ce qui vient de se passer sur le dur, là. Mais à Roland-Garros ou peut-être même à Barcelone, je serais vraiment, vraiment, vraiment curieux de voir comment il va réagir parce que, bon, là, on a dit, il est 9e. Ceux qui sont devant lui, ce seront des joueurs effectivement durs à tasser, là, si tu veux. Mais pourquoi pas? Tu sais, devant lui, il y a Rooney. On ne sait pas ce qui va arriver. Roublev, c'est dur de parier pour ou contre lui. Pourrait-il se rapprocher du top 5? En tout cas, si c'est le cas, je pense qu'on peut déjà lui donner le trophée du retour de l'année. Là. Pour moi, c'est déjà officiel.
Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que ouais, il pourrait être le retour de l'année. Ça, c'est certain. Je ne sais pas si c'est le joueur avec le plus de rythme présentement, mais c'est certainement un des gars dangereux sur le circuit. Il n'a pas beaucoup perdu cette année. Là. Il a quand même une finale à Marseille et là à Miami. Il a remporté le tournoi de Brisbane au début de la saison, une demi-finale à Rotterdam et une ronde des 16 à Indian Wells. C'est pas mauvais du tout. Je parlais tantôt de son revers à une main. C'est quand même un retour du revers à une main dans le top 10 qui était disparu. Toi qui es un nostalgique et un puriste du tennis, là, es-tu content de revoir au moins un revers à une main de retour dans le top 10?
Je suis content de voir qu'il reste un peu de normalité, Alex, en ce beau monde où tout bascule.
Il s'est fait poser la question d'ailleurs en conférence de presse à Grigor Dimitrov sur le revers à une main. Puis il a dit, tu sais, c'est tellement beau un revers à une main. Puis écoute, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. C'est moins à la mode là présentement. Puis je pense qu'il y a des bonnes raisons pour ça. Même Federer a déjà dit que peut-être qu'il ferait les choses autrement là, si c'était à refaire au tout début de sa carrière. Mais il reste que, il vantait à quel point c'est beau là, quand tu arrives au filet puis que tu réussis un beau coup avec un revers à une main. Surtout
son revers à lui, qui est probablement le plus beau après celui de Federer. Là, sont pratiquement, c'est du
chapeau.
Chapeau, c'est différent. Chapeau, il est moins dans la technique. C'est peut-être plus explosif, plus félin, je pense. Mais il y a quoi dans le revers de Dimitrov qui me fait évidemment penser au Federer des belles années. Mais c'est vrai que l'autre fois, on avait eu droit à un duel entre Tsitsipas et Shapovalov. Deux revers à une main, un droitier. Un gaucher, c'est un pur délice sur le plan technique.
Ouais, non, exact. Bon, c'est quand même un tournoi intéressant, ce qu'on a vu à Miami, qui est dans la tendance de ce qui s'est vu depuis le début de la saison, Nico. Ça n'a pas été le cas du côté des femmes. On a une dame qui a annoncé sa retraite, qui a finalement remporté le tournoi, mais on va en parler après la pause.
Séjournez à l'Hôtel Montville durant la Formule 1 et profitez des chambres confortables avec des vues imprenables sur le centre-ville de Montréal. Une localisation idéale pour visiter Montréal et se rendre au parc Jean-Drapeau. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver. Les cours de yoga et méditation à l'Hôtel Montville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30 le dimanche 14 avril. Ne vous encombrez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand. Réservez votre place sur hotelmontville.com.
De retour à Sur la Ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, Alex Régimbal et Nicolas Richard en votre compagnie. C'est un double date, entre guillemets, aujourd'hui, puisque Charlotte n'est pas disponible et Hugues Léger est en congé, et c'est un congé bien mérité. Nico, on a parlé du champion de Miami du côté des hommes, Yannick Sinner. Rien de surprenant de ce côté-là quand on regarde ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Mais si tu m'avais dit il y a deux semaines que Daniel Collins allait remporter le tournoi de Miami, je t'aurais dit combien tu veux mettre.
Il y a ça, puis je te relance, Alex, avec... J'ai également vu, notamment sur les réseaux sociaux, puis dans la semaine qui ont mené à la finale sur les différents réseaux de télévision, à quel point on était surpris de voir Collins jouer un tennis de cette qualité. Puis je le comprends, elle est 53e, n'a jamais gagné de grands titres, mais ça demeure quand même une fille qui est en finale d'un grand chelem il y a 2 ans à peine. C'est une fille qui a été championne nationale universitaire aux États-Unis. C'est pas un deux de pique. Daniel Collins, dans de bonnes conditions, elle est capable de rivaliser, je pense, avec n'importe qui. Puis je suis pas en train de te dire que j'avais prévu sa victoire. Loin de là, parce qu'on a vu un certain ralentissement dans la dernière année. mais il n'y en demeure pas moins que chez elle, on sentait qu'elle avait le vent dans les voiles. Tu l'as dit, elle a annoncé sa retraite. En fait, elle a annoncé qu'elle allait prendre sa retraite plus tard cette année. Mais Collins, lorsqu'elle joue du gros tennis, lorsqu'elle est capable de maîtriser ses émotions, c'est tellement beau de la regarder aller. Elle a été décisive dans les points les plus importants. Puis elle a battu, pas n'importe qui, Elena Rybakina, qui il y a quelques mois à peine, on disait, membre du nouveau Big Three du côté de la WTA. Donc, c'est une grosse, grosse victoire pour Daniel Collins.
Ouais, je pense qu'elle a profité un peu du tableau qui a un peu explosé de son côté, Daniel Collins, mais elle a quand même battu Caroline Garcia dans ce tournoi-là.
Feu,
et comme tu disais, Rybakina, moi, je m'attendais à ce que c'était, mission accomplie pour Daniel Collins en finale. Je me disais, bon, elle va jouer contre Rybakina. Rybakina va lui donner une race, mais tout le monde va être content parce que Rybakina est la favorite. Et puis, Daniel Collins va se dire, je ne m'attendais pas à ce résultat-là, mais qu'elle reparte avec le trophée et le plus gros titre de sa carrière au moment où elle a carrément décidé d'arrêter de jouer.
C'est une tournée d'adieu, là.
Écoute, je lisais quelques titres qui disaient « Elle tourne sa tournée d'adieu en je sais pas c'est quoi l'expression francophone, mais à victory lap, là, le tour de la victoire. Là, tu sais.
Puis,
écoute, une Américaine qui gagne à maison comme ça, le plus grand titre de sa carrière, le scénario de film, pas à peu près dans ça, là.
Ouais, c'est fantastique, puis d'autant plus que Collins, elle est très bonne pour se vendre. On l'a vu pendant son discours, c'est une fille qui, je pense, qui est à l'aise devant les médias, à l'aise devant les gens. Puis on parle d'une victoire à la maison, pas seulement parce qu'elle est américaine, mais c'est une fille, elle, de la Floride. Donc, c'est vraiment dans sa cour. Puis elle l'a dit aussi dans son point de presse par après. Elle a dit, mon père m'a dit, on va seulement aller à ce tournoi-là le jour où tu vas jouer dans le tournoi. Donc, c'est vrai que ça boucle la boucle à merveille. Puis peut-être faire le point avec Rybakina. Tu sais, oui, elle a battu une joueuse de grand talent, une championne Grand Chelem. Il faut cependant rappeler que Rybakina est loin d'être à 100% au cours des dernières semaines. Problème gastrique, problème au niveau de l'estomac. Forfait Indian Wells, à Dubaï également. Est-ce que c'est une Rybakina en pleine possession de ses moyens qui a perdu contre Collins? Peut-être que non, mais ça reste qu'elle était là. Elle a gagné des matchs, puis Collins, ultimement, c'est elle qui finit avec le trophée. Fait que j'ai comme pas envie qu'on mette d'astérisque sur cette victoire-là, mais il faut quand même penser que Rybakina n'était peut-être pas à 100%, même si Collins a joué du très grand tennis.
Ouais, je pense pas que ça mérite un astérisque à ce point-là, parce que, bon, je pense que Rybakina s'est quand même rendue en finale,
exact,
malgré tout, là, et puis elle a quand même battu, je disais, Garcia, Alexandrova aussi un peu plus tôt dans le tournoi. Mais tu sais, Nico, pour ajouter à la surprise que c'était ce tournoi-là, je veux dire, c'est son premier titre Masters 1000 pour WTA 1000, en fait, là, pour Daniel Collins. Mais il n'y a pas si longtemps, à Doha, un autre WTA 1000, elle avait dû se qualifier pour rentrer dans le tournoi. Elle avait finalement atteint les quarts de finale, elle fait un bon résultat, là, mais il reste qu'elle avait dû se qualifier. Et là, elle est championne de WTA 1000, celui de Miami. Quand même phénoménal.
Ah, c'est fou parce que lorsque tu regardes l'ensemble de sa carrière, elle a participé à 4 finales et là-dessus, il y a un grand chelem et un Masters 1000. Donc, un curriculum vitae qui est quand même assez alléchant. Et ses dernières victoires remontaient à 2021. Donc, je suis convaincu qu'elle, même si on pense là, que évidemment que les joueurs et les joueuses de tennis veulent gagner chaque fois qu'ils prennent part à un tournoi, probablement qu'elle se disait « Bon, ben moi, ce sera mon dernier tour de piste. Je vais faire du mieux que je peux. Arrivera ce qui arrivera. » Mais je ne suis pas convaincu qu'elle aurait gagé sur elle-même pour gagner un titre Masters 1000. Elle l'a fait de brillante façon. Pourquoi pas, Alex, poursuivre l'aventure avec d'autres titres importants cette année? Elle l'a fait une fois. Elle pourrait peut-être le refaire. Je me répète, finaliste Grand Chelem, tu n'arrives pas là par hasard. Pourquoi pas pour Daniel Collins?
Penses-tu que le fait qu'elle ait annoncé sa retraite, elle joue librement, sans se poser de questions? Elle dit, ça arrivera ce qui arrivera, puis ça lui donne peut-être le meilleur tennis de sa carrière.
J'en suis convaincu, Alex. Imagine-toi toute la pression que les joueurs et les joueurs, surtout les joueuses, doivent subir au quotidien. Et là, tu te dis, peu importe ce qui arrive, j'arrêterai à la fin de l'année. Donc, aussi bien s'amuser, en profiter. Puis comme je te disais, tu sais, Collins, c'est une fille qui a souvent dû se battre contre ses démons dans différents tournois. Mais là, présentement, tu vois qu'elle est relâchée. Les épaules semblent moins contractées. Elle semble vraiment plus libre sur le terrain. Puis c'est une belle remarque que tu fais parce qu'effectivement, je pense que ça pèse dans la balance.
Elle vient aussi de donner une espèce de souffle ou bouffée d'air à tous ceux qui passent par les collèges américains, parce qu'elle était un peu ce porte-étendard-là de filles qui, même si tu passes par les collèges américains, souvent ce sont Fais attention à ce que je vais dire. Là. C'est peut-être plus vrai au Canada qu'aux États-Unis, mais souvent, les meilleurs joueurs, les plus talentueux vont passer chez les pros traditionnellement plus rapidement. Ils ne passeront pas par les collèges américains. Okay?
Effectivement. Effectivement. Parce que Collins, en Virginie, je l'ai dit tantôt, deux fois championne nationale.
Exact.
Mais habituellement, les joueurs qui gagnent championne nationale vers 21-22 ans sont déjà sur le circuit pro depuis 2 ou 3 ans.
Ben, ils pourraient... Exact. C'est là où je vais en venir. C'est que la plupart des joueurs qui sont hyper talentueux, hyper jeunes, ne passeront pas par les collèges américains. Mais il y a quand même plusieurs...
Hein? Coco Gauff est un exemple.
Félix est un exemple également. Par contre, il y a des contre-exemples. Si je me souviens bien, John Isner a passé par les collèges américains. Là, si on remonte un peu plus loin, il y a des John McEnroe, tout ça. Mais les frères Bryan sont passés par les collèges américains, qui sont devenus des légendes du tennis, si je ne me trompe pas non plus. Ben Shelton, mais lui, a pas complété son stage.
Alexis Galarneau,
peut-être un futur champion. Mais ça se pourrait. Qui sait, Alexis? Alexis, on n'en parle pas beaucoup dans les derniers moments, mais il ne faut pas exclure que ce gars-là explose dans les prochaines années. Tu sais, quand il va être peut-être, je ne sais pas, physiquement un peu plus imposant, un peu plus mature, je ne sais pas, au niveau physique, peut-être que ça va changer bien les choses dans son cas. Puis on sait à quel point c'est un joueur résilient et un joueur intelligent sur le terrain. Puis je ne dis pas ça là, parce que c'est un des préférés du podcast, mais je pense qu'Alexis Galarneau, ça pourrait très bien être un gars qui va être dans le top 50 éventuellement. Qui sait, peut-être remporter des titres importants un jour. Mais enfin, Daniel Collins, c'est quand même toute une histoire. Je le rappelle, a dû se qualifier à Doha pour remporter ce tournoi-là. Elle remporte à 30 ans le plus gros titre de sa carrière à Miami. Elle a battu Rybakina en finale 7-5, 6-3. C'est quand même assez spectaculaire. Par contre, je sens qu'on en fasse un grand débat, Nico. Elle a quand même lancé une espèce de pavé dans la mort et je veux qu'on y revienne la semaine prochaine quand Charlotte sera des nôtres. Parce qu'elle a dit, elle s'est fait poser des questions à peu près toute la semaine sur sa retraite. Pourquoi est-ce que maintenant tu as des bons résultats ces temps-ci? Est-ce que tu as le goût de continuer à jouer? Est-ce que ça te donne le goût de continuer à jouer? Puis elle a répondu en disant, c'est drôle, hein? J'ai l'impression que si j'étais un homme, je ne me ferais pas poser autant de questions sur ce sujet-là. Comme je dis, je ne veux pas nécessairement qu'on en fasse une grande affaire. On en parlera avec Charlotte parce que je sais qu'elle a une opinion là-dessus. Mais a priori, là, penses-tu que si elle était un homme, ça aurait changé quelque chose dans le questionnement?
C'est dur à dire parce que je suis un homme. Fait que comme tu dis, je pense que Charlotte serait la meilleure personne pour en parler. Ben moi, ce qui me fait halluciner, c'est que c'est comme si certains journalistes présents sur place remettant en question la légitimité de la décision de Collins alors qu'elle prend sa retraite pour fonder une famille. Y a-t-il une meilleure excuse de quitter quelque chose que pour fonder une famille? Fait que, je trouve que parfois, il y a certains journalistes ou certaines questions à tout le moins qui devraient peut-être être révisées ou réfléchies davantage parce que moi aussi, des fois, à la place de Collins, en tout cas, je la trouvais très, très patiente, là. Pendant le point de presse, parce que je m'étais dit, moi aussi, un, ça vous concerne pas vraiment ce que je fais ou pas avec ma carrière, puis deux, je veux fonder une famille, fait que laisse-moi tranquille.
Je suis d'accord avec toi, puis je trouve ça intéressant parce qu'elle a finalement révélé que c'est ça. Là. Elle voulait peut-être fonder une famille, que bon, elle avait peut-être des petits soucis de santé à ce niveau-là, qu'elle voulait peut-être se concentrer là-dessus. En même temps, Nico, je pense que la question est pertinente. Quand tu as on a posé la même question pour Milos Raonic 17 fois depuis le début de la saison. Bon, on pensait qu'il était à retraite. Maintenant, il y a des résultats incroyables. Est-ce qu'il va avoir le goût de continuer? Andy Murray, on a dit la même chose. Il a une hanche en métal, mais il fait des résultats où tout le monde tripe sur ce qu'il fait sur le terrain. Est-ce qu'il va avoir le goût de continuer? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle était tannée.
Je comprends ton point. Puis, en tant que journaliste qui pose des questions, je peux comprendre qu'après un titre comme celui-là, on peut se demander, aurait-elle le goût de continuer? Tu sais, pensant pas qu'elle aurait pu à nouveau gagner des tournois, est-ce que tu aurais le goût de continuer? Une fois qu'on la pose, elle dit non, je fonde une famille, je pense que le dossier est clos. Là. Moi, c'est plus toujours cette idée d'en remettre pour espérer que l'athlète change d'avis. Or, elle l'a dit en janvier 2024, puis je ne suis pas sûr que présentement, après l'avoir dit une autre fois après son titre, je ne suis pas sûr que ça change. Fait que moi, c'est plus toujours l'idée de taper sur le clou en espérant une autre réponse, alors que son idée est fixe. elle veut fonder une famille, elle a des problèmes chroniques, elle a gagné un titre, c'est merveilleux, maintenant, passons à autre chose.
Ouais, là, je suis pas médecin, là, mais elle a des genres de problèmes inflammatoires là, qui pourraient affecter son potentiel de tomber enceinte.
Et de l'arthrose également aussi.
Ouais, exact. Alors, semble-t-il que ça, ces soucis-là sont un problème, et j'imagine que l'arthrose, c'est quand même un problème quand tu es un athlète de haut niveau également.
Mais tu vois, Alex, il y a beaucoup de journalistes qui demandaient à Collins, est-ce que ça te donnerait une motivation de continuer, tu sais? Mais moi, je le voyais à l'inverse. Moi, j'étais convaincu.
Mission accomplie.
Ouais, puis qu'elle se retire plutôt que tard, tu sais. Moi, c'était plus ça, mon état d'esprit, tu sais.
Ben, un peu comme Flavia Pennetta, tu sais, qui gagne le US Open, dit ciao, bye, c'est terminé.
Je t'sais. L'ai fait, coché balancé. Tu sais, moi, j'étais plus dans cet état d'esprit-là plutôt que aurais-tu le goût de continuer, tu sais.
Intéressant. Je pense que la question, elle est pertinente. Elle est. Mais je pense qu'on. J'ai hâte de voir l'opinion de Charlotte là-dessus parce que, tu sais, Charlotte, elle a beaucoup d'expérience aussi en entrevue, là. Elle se fait poser beaucoup de questions, puis j'aime beaucoup ce qu'elle fait depuis le début du podcast avec nous. Alors, j'ai hâte de l'entendre. On va y revenir avec Hugues également. Hugues va toujours avoir des propos pertinents, mais j'aime ton approche de dire, ben, attendons. C'est quand même. Il y a quand même une logique derrière ça. Peut-être qu'elle est tannée aussi de se faire poser trop de questions là-dessus. Puis de toute façon, ben, franchement, ce serait pas la première athlète qui serait tannée de se faire poser les mêmes questions, tournoi après tournoi, ça arrive à peu près à tous les athlètes. Fait que peut-être qu'il y a juste ça dans cette réponse-là, puis qu'il ne faut pas voir plus loin que ça aussi. Ça se pourrait très bien, Nico.
Tout à fait.
Je veux qu'on revienne du côté des hommes. On dirait que Novak Djokovic trouve des raisons à chaque semaine qu'on parle de lui sans que... des fois, c'est parce qu'on se pose des questions sur ce qui se passe avec lui. Est-ce qu'il est encore le joueur dominant? Mais chose certaine, il trouve encore une raison qu'on parle de lui cette semaine parce qu'il est présentement, ou va devenir, le plus vieux numéro un de l'histoire du tennis. Un autre record, un autre élément qui ajoute à sa légende, Novak Djokovic. Je pense quoi du fait qu'il devient le plus vieux numéro un mondial?
Ben, c'est hallucinant, puis en même temps, ça ne devrait pas surprendre personne. On sait à quel point il prend un soin jaloux de son corps. Puis je me rappellerai d'une entrevue avec Milos Raonic juste avant la Coupe Davis, puis je lui demandais... Tu sais, ce qui a changé dans son approche, puis pourquoi dorénavant, il y a certains joueurs comme Djokovic qui durent longtemps, puis il dit dans le cas de Djokovic, qui est un extraterrestre, là, je veux dire, je pense pas qu'on revoit Tito, un gars qui dure aussi longtemps, mais Raonic disait, c'est comme si Djokovic s'entraînait à 22-23 ans pour performer à 38-39 ans. C'est comme si, très très tôt, il avait compris que l'avantage qu'il aurait sur les autres, c'est sa forme physique, sa flexibilité, et la manière de performer dans la trentaine avancée. Puis lorsqu'il m'a dit ça, j'avais comme jamais réfléchi vraiment à cet angle-là, mais je me suis dit, ça prend quand même un gars qui a une vision exceptionnelle pour te préparer lorsque tu rentres sur le circuit à performer 10-15 ans plus tard. Et on voit aujourd'hui que Djokovic, ben ça paye. Il est numéro un mondial toujours, même si les jeunes, puis on parlait de Dimitrov tantôt, qui est tombé entre deux chaises, là, malgré... Medvedev, malgré Alcaraz, malgré Sinner, malgré Zverev, malgré Tsitsipas, malgré Rune, Djokovic tient le fort. Il joue à peu près pas. Et quand même, il est numéro un. Il aura 37 ans plus tard cet été. C'est tellement dur d'émettre une date de péremption pour Novak Djokovic parce qu'il semble inarrêtable et inépuisable.
Mais c'est ça, on a parlé beaucoup dans les dernières semaines, et je te dirais peut-être même depuis le début de l'année, je vais le dire comme ça, du fait de est-ce que l'ère Novak Djokovic, elle est terminée? On a posé beaucoup la question au sens où et on ne pose pas la question à savoir est-ce qu'il va gagner d'autres titres Grand Chelem, ça se pourrait très bien, est-ce qu'il va gagner une dizaine encore de titres ATP, ça se pourrait très bien, peut-être même plus, qui sait. Mais est-ce que son ère de domination est terminée? Mais la question se pose. Mais il faut quand même reconnaître que ce qu'il réussit à faire, c'est quand même complètement fou. Et je sais que tu es un gars de stats, Nico. Là. Il devient le plus vieux à 36 ans et 321 jours. Bah, Federer à ce niveau-là. Faut rappeler aussi que Federer, c'était pas le dernier venu non plus. Novak Djokovic, ben, il a été pour la première fois numéro un mondial à 24 ans. Ça se passait le 4 juillet 2011. Et check, honnêtement, ce qui est complètement fou, là, depuis qu'il a eu 30 ans, il n'y a pas si longtemps dans le monde du sport, dans le monde du tennis, 30 ans, c'était jeune. C'était vieux. Et, on n'arrêtait pas de parler de la retraite de Federer là, à ses débuts de trentaine, puis finalement, il a gagné d'autres titres. Mais il n'y a pas si longtemps, 30 ans dans le monde du tennis, c'était vieux. Et là, Novak, lui, depuis qu'il a eu 30 ans, il a remporté 31 titres et 12 de ses 24 titres Grand Chelem sont survenus dans la trentaine.
Ah, mais ça ne me surprend pas parce qu'on le voit, il est meilleur d'année en année. Puis je suis convaincu que le déclin de Federer et de Nadal ont un peu contribué, je pense, à cet essor de titres pour Djokovic. Mais c'est un gars, comme je le disais, qui a visé le long terme, puis son plan a fonctionné. C'est admirable. C'est admirable.
Le déclin de Federer et Nadal, sans doute, et l'incapacité des générations qui ont suivi à rivaliser avec le Big Three.
Oui. Ah, c'est hallucinant. Puis Djokovic sera sans doute le dernier des Mohicans. Je sais, tu sais, il est à 24, va-t-il en gagner 25, 26? Rappelle-toi, là. Il y a un an à peine, je pense, que tu nous demandais, va-t-il se rendre à 30? Ben, c'est ça, exactement. Puis la question se pose-t-elle encore? Je pense que oui. Est-ce que je suis aussi convaincu que ma réponse il y a un an, un peu moins parce qu'il a ralenti puis les jeunes ont poussé? Mais assurément, là, je pense qu'on peut viser au moins 26 pour Djokovic.
Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis regarde, on ressortira à clip dans 4 ans. Là. Je vais peut-être même dire, je pense pas qu'il va se rendre à 30. C'est quand même beaucoup. Ça y en prendrait 6.
Ouais. Exact.
Mais Nadal est allé remporter deux grands chelems alors que personne ne l'attendait, ouais. Alors qu'il n'avait pas joué depuis un an et demi dans la même année. Alors, tu sais, Novak Djokovic, il va peut-être rentrer dans ces années-là là, où, oui, on ne peut jamais l'exclure de l'équation, mais personne n'est tant surpris s'il remporte un titre. Alors, peut-être qu'il va aller chercher 3-4 titres de ce genre-là, du genre, ben oui, c'est Novak. Il est 8e mondial là, ou, je ne sais pas, 20e exact. Mondial. Puis, soudainement, le tableau s'ouvre puis il va remporter le titre de grand chelem.
Ah, c'est tout à fait plausible. S'il y en a un qui peut le faire, c'est lui.
Intéressant. Intéressant. Nico, on parlait de cette ère où Novak Djokovic est le plus vieux à remporter, à être numéro un mondial. Mais ce qui est fascinant et peut-être une bonne nouvelle également, c'est que dans la même génération, on a quand même le précédent numéro un mondial, Carlos Alcaraz, qui était le plus jeune numéro un de l'histoire.
Mais c'est le flambeau qui se passe. Rappelle-toi, là, tu sais. Sampras, qui est l'idole de Federer, les deux jouent contre, Federer bat Sampras, le flambeau est passé. Et là, présentement, c'est un peu ça. T'sais, on peut même en parler avec Sinner, qui a battu Djokovic l'an passé. On pense Djokovic inarrêtable. Qui arrive? Qui se pointe le bout du nez? Sinner. Lui prend le flambeau et Sinner, que fait-il quelques mois après? Gagne l'Australie et Miami. On est présentement dans cette ère. On se demandait qui va remplacer le Big Three. Je pense qu'on a trouvé du moins 2/3, Alcaraz, Sinner et personne X. Mais présentement, on est là. Il y en a 2/3 du Big Three qui sont un peu disparus. Nadal va-t-il gagner un 15e Roland-Garros? Ça se peut. Il n'en demeure pas moins que Djokovic, il est pas mal le seul de son clan à avoir survécu. Et là, on est dans la passation des pouvoirs présentement. On est en train de le vivre.
Hot take avant la pause, comme on dit.
Ah oui, hein?
Je prends un brûle pour point, mais t'es bon là-dedans. Qui va avoir la plus grande carrière? Sinner ou Alcaraz? Dans 20 ans, là.
J'ai envie de te dire Alcaraz, je pense, simplement parce qu'il a déjà prouvé beaucoup,
plus jeune.
Sinon plus que Sinner. Mm-hmm. Et je pense qu'il sera moins à risque de blessure également. Et j'ai l'impression que sa capacité à être bon sur toutes les surfaces va ultimement lui être payant.
Intéressant.
Je pense que ça le caractérise. Es-tu Sinner, toi, ou t'es...
Non, ben, si tu me poses la question maintenant, là, si je me pose la question maintenant, finalement, moi, j'aurais Alcaraz, puis je pense que ce sera même pas serré.
Ouais. OK, à ce point-là, hein?
Je pense que Sinner va être bon, mais je pense que... Tu sais, Alcaraz, on n'arrête pas de dire qu'il a la précocité du Big Three, et Sinner, sans dire que ce qu'il fait, c'est pas exceptionnel, c'est complètement exceptionnel ce qu'il réussit à faire. Mais je pense que ce ne sera pas serré.
Mais je te relance. Qui va compléter le nouveau Big Three avec Alcaraz et Sinner?
C'est intéressant. Peut-être qu'il est un peu plus vieux. Est-ce que ce sera Zverev? Mais en même temps, Zverev, est-ce que Medvedev est trop vieux déjà pour le considérer dans cette catégorie-là? Est-ce que ce sera Algeroun? C'est embêtant parce que, bon, Sinner et Alcaraz là, sont un peu plus jeunes, mais Sinner n'a que 22 ans. Ouais.
Moi, j'ai envie, je ne suis pas en train de te dire que ça va être lui, mais surveillons Ben Shelton. Surveillons Ben Shelton. Parce que je regarde présentement le classement, puis tu sais, je pense qu'effectivement, Medvedev et Zverev sont peut-être un peu trop vieux pour faire partie du lot. Rooney, j'ai comme l'impression que son plafond est peut-être plus bas que ce à quoi on s'attend. Et lorsqu'on descend le classement, Dominar pour convaincu, Tsitsipas, Fritz non plus. Puis le prochain sur la liste, c'est Shelton. Regarde ce qu'il a fait dans les moments importants l'an passé. US Open, dans les tournois comme celui-là où il est sur dur avec son service. Ne dormez pas sur Ben Shelton.
Mais tu sais, en même temps, tu sais, Medvedev a 28 ans, Zverev a 26. Tu sais, Federer Nadal avait à peu près 5 ans de différence.
T'as raison.
Je sais pas. Peut-être qu'on cherche des épines où il n'y en a pas. Là. Mais c'est une bonne question. Hey, c'est quoi? On la reposera la semaine prochaine. Ouais. Mettons qu'on tient pour acquis que du prochain Big Three, Sinner et Alcaraz sont ancrés là. Qui est le troisième membre, le troisième mousquetaire?
Et qui sera le quatrième du Big Four? Qui sera le nouveau Andy Murray, Alex?
Non, mais la question, c'est intéressant, la question se pose. Mais tu vois, c'est drôle parce que tantôt, tu me parlais de Alcaraz. Puis j'ai l'impression que... Et je parle peut-être à travers mon chapeau. Je te dis, ça va peut-être mal vieillir ce que je vais dire là. Mais je pense que ma comparaison en termes de carrière, Sinner, ce ne serait pas vraiment mauvais du tout. Là. J'ai l'impression que ça va être un Andy Murray. Peut-être qu'il va être numéro un mondial, va peut-être bien remporter quelques grands titres grand chelem, mais il n'en gagnera pas une dizaine. Mais peut-être, et peut-être que je te dis n'importe quoi.
C'est intéressant.
Et alors que je pense que Alcaraz appartient plus à la catégorie des Federer, Nadal, Djokovic, etc. Dernière pause, mon cher Nico, et puis au retour, on va commencer tranquillement à regarder ce qui va se passer du côté de la terre battue.
Séjournez à l'Hôtel Montville durant la Formule 1 et profitez des chambres confortables avec des vues imprenables sur le centre-ville de Montréal. Une localisation idéale pour visiter Montréal et se rendre au parc Jean-Drapeau. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver. Les cours de yoga et méditation à l'Hôtel Montville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30 le dimanche 14 avril. Ne vous encombrez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand. Réservez votre place sur hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Ce sera un court bloc, mon cher Nico. Indian Wells et Miami, c'est souvent ce qui marque la fin de la première partie, du premier tiers de la saison, autant en termes de période de temps qu'en termes de, sur quelle surface on joue pour l'essentiel. Là, on s'en va sur terre battue. Il y a déjà des tournois sur terre battue des 250 qui vont se jouer dès cette semaine avant qu'on aille dans des tournois un peu plus importants d'ici une semaine et demie ou à peu près. Sans qu'on fasse un grand tour d'horizon, ouais, c'est bien dit, tour d'horizon sur ce qui va se passer. On le fera peut-être la semaine prochaine avant Monte-Carlo avec l'équipe complète. Mais tu t'attends à quoi? Et est-ce qu'on aura des surprises sur terre battue? Est-ce que Nadal va, selon toi, peut-être surprendre beaucoup de monde? Est-ce que Casper Ruud va finalement mettre son pied à terre sur terre battue et s'imposer comme étant peut-être le meilleur joueur de cette génération-là sur terre battue? Est-ce que Daniil Medvedev pourrait surprendre et remporter un grand titre sur terre battue?
Tu l'as dit, les grands tournois arriveront dans quelques jours, notamment celui de Monte-Carlo, le préféré d'Hugues, notamment.
Deuxième résidence.
Oui, exactement, sa résidence secondaire au flanc des montagnes. Non, mais ce qui est intéressant, je pense, cette semaine à surveiller, c'est le tournoi de Houston au Texas, où d'abord, Denis Shapovalov effectuera son retour sur terre battue. Il a bien fait Miami, victoire contre Tsitsipas, puis on sent tranquillement qu'il reprend du poil de la bête. Mais à Houston également, je te parlais de Ben Shelton il y a quelques instants, il y sera, Francis Tiafoe, champion défendant, Christopher Eubanks aussi, qu'on a un peu oublié, mais qui demeure une proie intéressante. Fait que le tournoi de Houston, oui, c'est un 250, et il y a deux autres 250 qui se joueront cette semaine. Là, on pense à Estoril et à Marrakech. Mais celui que je vais surveiller avec beaucoup d'attention, c'est Houston. Mais tu l'as dit, dans les prochaines semaines, Monte-Carlo, Barcelone aussi, un 500 qui a toujours des allures de Masters 1000, suivi de Munich. Ensuite, bon, ce sera Madrid, et après ça, Rome et Paris, etc. Mais il y a du gros tennis qui s'en vient. Je ne suis pas le plus grand fan de terre battue nécessairement, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a des joueurs qui vont prendre leur air d'aller et d'autres qui vont croupir sous la pression. Puis c'est souvent là que ça se décide. Là,
sur la table. Un élément donc, que tu as apporté souvent depuis le début de la saison de Sur la ligne, c'est celui des Jeux olympiques. Ah. Est-ce que tu penses que le fait que, bon, on devra revenir sur terre battue, après, la saison de terre battue va prendre, je sais pas, une signification un peu différente, c'est-à-dire qu'on va vouloir jouer peut-être un peu plus de tournois sur terre battue pour l'essentiel des joueurs?
J'en suis convaincu. Tu sais, je suis pas mal sûr qu'il y a des joueurs là, comme Medvedev, comme Sinner, qui n'auraient peut-être pas joué beaucoup de tournois sur terre battue, mais qui vont se dire « Ah, pour la préparation, parce qu'il y a deux gros tournois presque de manière consécutive, c'est-à-dire Roland-Garros et les Olympiques, qui seront disputés sur terre battue. » C'est un bon point que tu amènes. Je pense qu'on va voir des joueurs dans des tournois de moindre importance défendre leur place et surtout prendre du galon pour ces deux tournois importants sur terre battue, parce que c'est le genre de truc là, qui arrive presque une fois...
Au cadre.
Oui, dans la mesure où être bon pendant les Olympiques, ça demande un timing, une préparation extraordinaire et ne sont pas très nombreux les joueurs qui ont gagné deux fois leur Olympique. Donc, pour des joueurs comme Medvedev ou Zverev, par exemple, qui sont au zénith de leur carrière ou presque, c'est un moment extrêmement crucial.
Et là, si je ne me trompe pas, on devra aller jouer sur gazon à Wimbledon avant de revenir au tournoi olympique.
C'est pas juste ça. Imagine l'Omnium Banque National. On demande aux joueurs de faire terre battue, gazon, terre battue, dur.
Et changer de continent une fois de plus pour revenir en Amérique du Nord. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Souvent, l'Omnium Banque National est situé là, juste après les Jeux olympiques. Ça pourrait définitivement jouer. Mais de façon générale, on a quand même l'essentiel des bons joueurs qui viennent jouer parce qu'on est tellement proche du US Open et la préparation, elle est tellement importante.
Et c'est un mail obligatoire aussi, rappelons-le.
Exact. Alors, je pense que ça devrait pas trop affecter la liste de joueurs pour l'essentiel. Et je sais aussi que c'est une des destinations les plus appréciées des joueurs dans le monde. Et comme je dis, bon, on est à 3 semaines là, du US Open quand on arrive à l'Omnium Banque Nationale. Et je pense que ce sera important parce qu'effectivement, on aura changé de surface et la préparation ne sera pas si longue que ça pour revenir sur surface dure pour se préparer au US Open. Alors, j'ai l'impression que l'Omnium Banque Nationale, on devra garder à l'œil si on est un joueur, même si ça rend l'horaire serré et peut-être prendre plus congé après le US Open. Qui remporte Roland-Garros, mon cher Nico, à un mois?
Oh là là!
Alors, est-ce que Novak va défendre son titre? Est-ce que Nadal va jouer?
Djokovic, tous les grands chelems, je pense encore qu'il est le plus dangereux. Mais d'avoir vu Alcaraz revenir comme ça, ça m'angoisse un peu dans ma prédiction parce qu'Alcaraz sur terre battue, il est doué, il est extrêmement bon. Là, il a gagné Indian Wells, il a retrouvé le chemin de la victoire. Bon, ce serait cliché et facile de dire une finale Djokovic-Alcaraz, mais je pense quand même que c'est ce qui va arriver. Présentement, je donnerais l'ascendant à Alcaraz.
Mais ce ne serait pas si cliché et si facile que ça, Nico, je pense, à ta défense, parce que tu n'as même pas parlé de Casper Ruud, qui est le finaliste de l'année passée, qui, on sait, sur terre battue, est excellent. Et tu n'as pas parlé de Yannick Sinner.
Complètement. Il y a Sinner, puis même, tu passes. On parlait de Dimitrov tantôt. Si Dimitrov glisse comme un dieu grec là, sur la terre battue de Roland-Garros, pourquoi pas?
Un dieu bélarussien.
Mais voilà. Il y a tellement d'options que c'est difficile, mais le choix évident, c'est Alcaraz, Alex. Puis il va être, je pense, le choix évident pendant les 10-15 prochaines années.
Honnêtement, c'est difficile de dire que ce que tu viens de dire, ça n'a pas de sens. Ça a beaucoup, beaucoup de sens. Nico, c'était comme dans le temps, juste toi et moi pour cet épisode du 1er avril de Sur la ligne. Je te remercie infiniment pour ton excellent travail une fois de plus. Et comme c'est la tradition depuis le show numéro 1, ben je vais te donner le mot de la fin.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde.